La conférence qui va avoir lieu dans quelques instants fait suite à une réunion importante que nous venons de tenir, au cours de laquelle vient d'être créé le réseau des villes et villages de France qui ont honoré des justes de France, des justes parmi les nations, et qui ont pour la plupart créé dans leur commune un lieu de mémoire, que ce soit une rue, une place ou un autre lieu spécifiquement dédié pour honorer la mémoire de ces justes. Parfois, dans ces communes, il y avait des justes, et c'est leur nom qui a été donné à ces places. Parfois, il n'y en avait pas, mais les maires ont considéré extrêmement important d'honorer les justes en général, à cause des valeurs que ces justes ont incarnées. Donc, Madame Vieux-Charrier, vous nous avez dit avec justesse que nous avons assisté à la banalisation très souvent de la Shoah, et plus récemment à la banalisation de l'antisémitisme. C'est donc pour cela que ce réseau aussi a été créé. Ce réseau qui aujourd'hui a réuni 29 communes et dont un certain nombre de maires sont encore là, ne sont pas encore repartis dans leurs communes, et avec lesquels nous allons travailler afin que ces valeurs puissent servir aux jeunes générations et endiguer ces tentations de haine et d'antisémitisme et de racisme aujourd'hui. Mais si je me réjouis donc de faire suivre cette réunion de nos élus par la conférence d'un universitaire, c'est parce que la connaissance et la transmission de la connaissance est toujours le préalable à toute réflexion. Le devoir de mémoire, c'est un devoir de savoir, et c'est pour ça que nous avons besoin des historiens qui, eux, nous transmettent le savoir. Vous avez parlé de la lumière dans la nuit. Et Monsieur Vincent, qui est le maire de Saint-Amand-de-Montrond, qui est ici présent au premier rang, a accepté de présider ce futur réseau des maires des villes et villages de France. Et Madame Vauquiez, maire du Chambon-sur-Lignon, a accepté d'assurer la présidence d'honneur. Les lumières dont vous avez parlé ont trouvé dans la bouche de Monsieur Vincent, et je reprends cette expression parce que je crois qu'on l'a tous beaucoup apprécié, il l'a appelé la troisième armée de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'armée du cœur et des bras ouverts. Alors, de cette armée du cœur et des bras ouverts, Monsieur Cabanel va maintenant nous parler. En quelques mots, vous avez rappelé que Monsieur Cabanel est un professeur d'université. C'est un historien qui s'est consacré à plusieurs thématiques. Il a beaucoup écrit sur les questions de l'enseignement, sur la pédagogie dans nos communes. Puis ensuite, il s'est intéressé à la République laïque, où il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Et ensuite, il s'est intéressé à la question des minorités religieuses, à savoir les protestants et les juifs. S'intéressant aux Juifs, il s'est intéressé au sauvetage des Juifs, et c'est la raison pour laquelle il est ici, puisqu'il a écrit un ouvrage exceptionnel sur les justes de France, et je vais donc lui céder la parole. Je veux simplement dire que quelque part, lorsque nous avons ce livre extraordinaire de Roger Browning sur les hommes ordinaires qui commirent les pires barbaries, eh bien nous avons le livre des hommes ordinaires qui, ici, ont sauvé l'honneur de beaucoup de pays. Mais, Madame Vieux-Charrier, je vais vous expliquer pourquoi notre président a froncé les sourcils. C'est parce que effectivement, si trois quarts des Juifs de France ont été sauvés, ils ont été sauvés pour beaucoup de raisons. Et on ne peut pas effectivement dire qu'ils ont été sauvés grâce aux 3500 justes. Voilà. Donc, comme beaucoup de gens font cet amalgame, je sais qu'il tient toujours à ce qu'on rappelle que ces quelques justes ont effectivement sauvé beaucoup d'enfants et de familles pour échapper à la déportation, mais le sauvetage des Juifs de France a bien d'autres raisons.
Merci, madame. Même si vous avez dit que le livre était exceptionnel, il n'est pas exceptionnel, c'est juste un livre d'histoire, et il est temporaire, puisque lorsque je l'ai écrit, j'ai raisonné sur 3500 justes, Yana, j'ai appris aujourd'hui 3661. Je pense qu'on arrivera assez vite, dans les 3 ou 4 ans, à 4000, juste pour la France. Hein. Et je voudrais rendre hommage à Lucien Lazare, qui pour moi est un aîné et un maître. Il y avait 1000 justes. Aujourd'hui, il y en a 3005, 3006. Et donc, ce livre, il est une photographie, à un moment, dans l'histoire des justes de France. Et pour rebondir sur la querelle des 75%, c'est l'occasion de dire que les premiers, parce qu'on ne peut pas en parler, puisque les justes, pour être justes, il faut être non-juif. Et il y a des gens, y compris des juifs, qui regrettent que Yad Vashem ne reconnaisse pas les juifs sauveteurs de juifs. Donc, pour le dire, madame, les 75% sauvés en France, c'est parce que les premiers à avoir sauvé des juifs, ce sont les juifs eux-mêmes. Non pas les juifs qui se sont sauvés eux-mêmes, les pères de famille qui ont sauvé leurs gosses. Ça, c'est banal. Mais les jeunes militants juifs des éclaireurs israélites, de l'OSE, qui, eux, couraient des risques mortels. Parce que lorsqu'ils étaient pris, c'était immédiatement la déportation, ce qui n'était pas le cas des autres. Ce sont ces jeunes militants qui ont donné leur vie pour d'autres juifs, qui additionnaient aux justes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je pourrais le dire tout de suite, les justes n'agissent pas seuls. Le héros isolé ne fait pas partie de cette histoire. Vous avez parlé de héros ordinaire, et ce qui caractérise un héros ordinaire, c'est qu'il est souvent inséré dans des milieux, des réseaux, et que les réseaux les plus efficaces étaient les réseaux, si j'ose dire, mixtes, avec des juifs et des non-juifs. Et moi, j'avais regardé ça pour un livre que j'avais publié il y a 2 ans, Alice Ferrière, qui était une petite prof de maths. Alors, c'était une protestante des Cévennes, mais elle était dans un endroit où il n'y avait pas un seul protestant. C'était la seule. Elle était à Murat, dans le Cantal. Pourquoi ? Parce que la République laïque, et je salue les instituteurs justes, ils sont nombreux, je vais en reparler, la République laïque l'avait nommé professeur de mathématiques à l'école primaire supérieure, les ancêtres de nos collèges. Sauf que c'était, il y avait vraiment un élitisme républicain, hein, avec les écoles primaires supérieures qu'on n'a plus dans les collèges. Eh bien, elle a sauvé, je ne sais pas, peut-être 40 enfants juifs et des adultes. Mais elle n'était pas seule. Elle a commencé par écrire au rabbin en disant « comment je peux aider ?» Et puis un jour, on lui a dit « est-ce que vous acceptez de garder des enfants ?» Mais ces enfants, ils ont été acheminés jusqu'à Murat par le train, par des convoyeuses, des jeunes militantes juives et des hommes aussi. Chaque mois, il faut le dire aussi, ces jeunes femmes revenaient porter, payer rubis sur l'ongle les pensions pour un certain nombre de familles d'accueil. Et Alice Ferrière était l'intermédiaire entre les familles d'accueil et puis cet argent qui lui-même venait du joint américain. Donc c'est une histoire qui est mixte et qui est internationale. Mais à certains endroits de cette histoire, les justes ont joué un rôle essentiel. Et c'est donc des justes que je vais parler et pas simplement du sauvetage. Juste un mot et je termine l'introduction et je promets que vous me ferez des signes, hein, les gens du comité d'Yad Vashem, vous me ferez des signes discrets. Pour me dire d'arrêter. J'ai participé, là c'était au printemps, à Ganges. Je le dis parce que je trouve ça très joli, le symbolisme des noms. À Ganges, il y a un collège public. Il se trouve dans la rue des écoles de la République. Pourquoi ? Parce que Ganges, c'est le milieu catholique. Non, il y avait des écoles privées, cathos. Et dont le maire a tenu à ce que la rue des écoles soit bien spécifiée école de la République, parce qu'il y a aussi le collège catholique. Le collège s'appelle Louise Michel. Il a une médiathèque qui s'appelle Lucie Aubrac. Et à l'intérieur de cette médiathèque, il y a un auditorium, un amphithéâtre, intitulé donc Alice Ferrière, qui est le nom de cette juste dont je parlais à l'instant. Donc, vous voyez cette cascade d'hommages, je dirais, à des figures féminines. Marianne, la République, et puis donc Louise Michel, Lucie Aubrac et Alice Ferrière. Et puis vous dire enfin, et j'en termine avec l'introduction, que je préside une association qui s'appelle le Club Cévenol, qui est une association loi 1901 des Cévennes, et que nous avons convaincu 4 municipalités qui sont des petits Chambon-sur-Lignon, hein, en Lozère et dans le Gard, d'apposer des plaques, mais des plaques qui ne rendent pas hommage aux justes, mais plus largement à l'accueil. Parce que c'est aussi tout le problème des justes. Souvent, un juste, c'est la partie, alors que je ne me trompe pas, émergée, hein, c'est ça ? J'ose pas dire l'iceberg, c'est pas beau, j'aime pas cette image. Mais c'est la partie émergée. J'ai dû écrire dans un livre parce que j'aime pas l'image de l'iceberg. Le juste, c'est soit un poteau indicateur qui indique que là, il y a eu sans doute un milieu, un réseau, un lieu d'accueil. Et donc, ces 4 municipalités sont des villages d'aujourd'hui de 80 habitants, ont mis une plaque rendant hommage, je dirais, à la rencontre d'une vraie minorité juive cachée et d'une vraie société d'accueil, sachant que dans cette société d'accueil, vous aviez comme toujours des leaders, Quelquefois, c'est ceux que Yad Vashem repère, les leaders. Par exemple, à Vébron et à Saint-Germain-de-Calberte, pour citer ces deux communes paumées de Lozère, eh bien, le leader, c'était le pasteur protestant. Et Yad Vashem a d'ailleurs nommé juste, depuis maintenant très longtemps, les couples pastoraux. Mais le leader, c'est aussi le secrétaire de mairie, qui, dans ces milieux-là, est l'instituteur laïque. Alors qu'en Haute-Lozère catholique, le secrétaire de mairie, c'est le prêtre. Et on l'a dit tout à l'heure à La Réunion, il y a, vous le savez, des dizaines de prêtres, de religieuses, de frères des écoles chrétiennes, d'évêques qui sont justes, à côté des dizaines de pasteurs protestants et des dizaines d'instituteurs laïcs. Et donc vous avez des leaders et puis vous avez aussi vous avez des paysans qui acceptent tout simplement de garder des gens chez eux, enfants ou adultes, et puis vous avez aussi leurs voisins qui se taisent. Et le simple fait de se taire, y compris lorsqu'on est gendarme dans la brigade locale, le simple fait de se taire participe de cette, j'aime pas aussi le mot, on avait parlé de conspiration du bien à propos du Chambon, mais oui, de cette conspiration ou de cet ensemble qui fait que des dizaines de milliers de juifs ont pu passer à travers parce qu'il y avait de vrais héros, puisqu'il y avait aussi des gens qui savaient, mais qui n'ont jamais causé. Et cela, c'était, si vous voulez, la circonférence la plus éloignée du sauvetage, mais ils ont joué tout leur rôle. Hein. Et on a beaucoup cru, nous les Français, que la délation avait été le sport national des Français pendant la guerre. Il y a eu de la délation, mais il n'y a pas eu, je crois qu'il y a eu moins de délation que ce qu'on a pu croire. Et en particulier, ce qu'on avait découvert il y a maintenant une trentaine d'années, c'est que Vichy, moi je l'ai découvert comme jeune historien, jeune étudiant, Vichy avait mis en place un système très moderne, hein, très totalitaire moderne, de contrôle postal. C'était le nom officiel. Et c'est-à-dire que les postiers, les gens de l'administration, soit ouvraient systématiquement le courrier des gens qui étaient repérés comme des suspects potentiels, soit ouvraient au hasard des lettres du tout venant, les refermaient de façon à ce que les gens ne sachent pas qu'il y avait une censure qui s'exerçait. Et tant que les gens n'ont pas découvert ça, il y a beaucoup de gens qui se sont trahis eux-mêmes en échangeant des informations par courrier, et donc ça s'ajoute à la délation. Mais ne parlons pas des délateurs, mais parlons des justes. Je le répète, le silence, le seul silence de beaucoup de gens ont contribué à ce sauvetage. Alors, il y a donc 3500 justes en France. Alors, vous avez dit en France parce que j'ai tenu à ne pas nommer le livre de France, mais en France, tout simplement parce qu'il y a, je le dis, et puis je ne vais pas y insister, il y a au minimum une centaine de justes qui sont sur la liste France de Yad Vashem, qui n'étaient pas français, et qui ont été parmi quelquefois les plus remarquables. Hein. D'abord parce qu'ils avaient des positions tout à fait privilégiées. Je citerai trois cas, l'ambassadeur du Brésil, qui a distribué des centaines de visas. Alors là, c'est le Brésil ou le consul du Portugal à Bordeaux, Sousa Mendes. Ce sont des justes qui ont pu agir quelques jours au moment de la débâcle. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit trop tard, ils ont distribué, mais vraiment à la queue, des centaines de visas pour le Portugal ou pour le Brésil. Et ensuite, ils ont été rappelés à l'ordre, et même rappelés physiquement, et leur carrière, notamment pour Sousa Mendes, le Portugais, leur carrière a été brisée par le dictateur Salazar, qui n'acceptait pas. Je signale simplement, parce que je trouve que c'est une très belle histoire de retour, parmi les quelques 800 juifs que l'ambassadeur du Brésil a sauvé en les faisant partir dans son pays, il y avait des enfants, et parmi eux, il y avait le jeune Félix Roatin, qui ensuite est revenu à Paris comme ambassadeur des États-Unis en France, après avoir donc été sauvé en 1940 par l'ambassadeur du Brésil. Vous avez aussi, il est célèbre, ce jeune idéaliste américain, Marianne Fry, vous savez, qui était venu avec une mission, que les Américains me pardonnent, presque un peu cynique. Hein. C'était, il faut que vous sauviez les génies, les principaux génies juifs, les génies artistiques, littéraires. Et puis, ça, c'était la mission. On lui avait donné 200 visas pour qu'il sauve... Alors, il a sauvé Chagall, Lévi-Strauss. Et puis, emporté par son élan, il a tenté de sauver des centaines d'autres personnes. Il a aussi, d'ailleurs, sauvé des gens qui n'étaient pas juifs, comme le poète breton. Hein, tous les gens dont on pensait qu'ils seraient dans le collimateur du nazisme. Donc, vous avez des figures qui sont aujourd'hui très célèbres, mais il y a trois Américains des États-Unis qui sont justes en France. Ce sont d'ailleurs les seuls justes américains. Ils sont justes en France. Il y a un Brésilien, une Chilienne qui travaille à l'hôpital Rothschild à Paris. Vous avez plusieurs dizaines de Suisses
Non pas parce que les Suisses sont nos voisins, il n'y a pas de Belges, mais dizaines de Suisses, parce que ces Suisses étaient soit des religieuses qui appartenaient à des congrégations françaises en France, soit principalement des militants idéalistes dont le premier engagement n'avait pas d'ailleurs été la France de Pétain, mais l'Espagne de la guerre civile. Ils avaient fondé en 37-38, c'était des pacifistes, des idéalistes, des internationalistes, la plupart d'ailleurs liés au protestantisme. Ils avaient fondé le Secours Suisse aux enfants, qui ensuite a été en quelque sorte intégré de force par la Croix-Rouge Suisse à son réseau, et c'est devenu la Croix-Rouge Suisse Secours aux enfants. Et ils sont rentrés d'Espagne avec l'exil républicain espagnol. Ils sont restés dans les camps où la France républicaine, d'abord, c'est ainsi, à l'été 39, puis Vichy, les camps ouverts pour les républicains espagnols. Et lorsque les Juifs sont arrivés dans ces camps, à Rivesaltes, à Gurs, ils sont restés et ils ont ensuite œuvré dans des maisons d'enfants. Lorsque, vous savez, on a pu faire sortir un certain nombre d'enfants des camps de la zone sud pour en ouvrir des maisons d'accueil, notamment au Chambon-sur-Lignon, et ils sont intervenus. Et puis, pour en terminer, vous avez aussi un certain nombre de... J'ai toujours du mal à prononcer leurs noms, je me lance, hein. Les Quakers, ça va? Alors là, vous savez, les Quakers, c'est le génie de l'internationale protestante pacifiste. Hein. Donc vous avez dans les Quakers qui ont sauvé et qui sont juste en France, il y a une Hollandaise, une Danoise et une Norvégienne, hein, qui a d'ailleurs écrit Alice Resch, qui a d'ailleurs écrit en anglais le récit de... Elle a sauvé une série d'enfants de Gurs, elle s'est installée avec eux dans une maison d'enfants dans les Pyrénées. Et elle raconte comment chaque soir, elle leur raconte une histoire l'un après l'autre, puisque les parents avaient été déportés. Voilà.
Il y a la maternité d'Elne.
Et puis il y a la maternité d'Elne avec des Suissesses, là, pour le coup, dont les noms m'échappent. Elisabeth Heidenbess, je crois, Rosa Naef, c'est celle, ou Naef, c'est une jeune Suissesse. C'est celle qui, lorsque les enfants ont été raflés dans un château en Ariège, le château de la Hille, est allée carrément s'enfermer dans le camp du Vernet, à côté de Toulouse. Elle est allée s'enfermer les enfants pour les accompagner jusqu'au bout. Et pendant ce temps, ses responsables sont allés dire à Vichy, si vous ne relâchez pas les enfants juifs qui sont actuellement au Vernet, la Suisse refusera d'accueillir les centaines d'enfants catholique, si vous me passez l'expression, que traditionnellement des trains emportaient dans la France des problèmes d'approvisionnement. La France avait des trains d'enfants qui allaient passer l'été en Suisse pour se refaire une santé. Et donc il y a eu une sorte de négociation d'État à État. Et les enfants juifs du Vernet ont été libérés, rendus à ce château de la Hille. Et ensuite, les jeunes Suissesses ont tenté de les faire passer clandestinement par la frontière avec la Haute-Savoie. Hein. On a parlé de Tournon-les-Bains tout à l'heure. Voilà, donc je ne parle plus des Juifs étrangers, et je parle des quelques 3500, des Justes, pardon, étrangers, et des quelques 3500 Justes de France. Alors, il y a trois façons de parler des Justes, et j'en choisirai une seule, rassurez-vous. Hein. Je dis juste un mot des deux que je ne retiendrai pas. La première façon de parler des Justes de France, même si elle est la plus belle pour faire des soirées, peut-être, c'est de raconter une série d'histoires personnelles héroïques, de choisir un prêtre, un évêque, Saliège, Monseigneur Saliège, dont nous allons demain à Toulouse commémorer la fameuse lettre pastorale du 23 août 1942, choisir un pasteur, choisir une concierge parisienne, un aristocrate châtelain vendéen, un cheminot communiste, vous voyez, et raconter des histoires. Mais il me semble que c'est pas suffisant de raconter de jolies histoires et qu'il faut essayer de dire un peu quelle était vraiment cette population. Est-ce que c'était vraiment des gens ordinaires? Est-ce que c'était des gens pas tout à fait ordinaires, c'est-à-dire est-ce qu'on peut repérer chez eux des caractéristiques collectives? Est-ce qu'il y a des métiers qui donnent des Justes plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des régions? Est-ce qu'il y a des opinions politiques? Je n'en parlerai pas ce soir, hein, parce qu'il faut un devoir de réserve. Est-ce qu'il y a des confessions? Là, je ne pourrais pas m'empêcher d'en parler, même si la laïcité devrait ne pas reconnaître les confessions. Voilà. L'autre façon de parler des Justes, qui est très séduisante, il y a toute une énorme historiographie, notamment américaine, en anglais, sur la question. C'est d'essayer, alors, d'éviter totalement la première solution où on raconte des histoires avec des vrais noms. C'est essayer de faire le portrait robot du juste. Qu'est-ce qui fait dans les origines sociologiques, la formation psychologique à l'enfance, les influences reçues, qu'est-ce qui fait que quelqu'un un jour sera injuste? Et les gens qui ont écrit des livres entiers sur la question, qui sont des passionnants, ne sont pas des historiens, mais sont plutôt des psychologues, des psychanalystes, des sociologues et des pédagogues. Et l'idée qui est derrière, si on arrive à tracer le portrait robot du juste, eh bien, il suffira de donner le portrait robot à nos instituteurs et institutrices, à nos profs de collège, et ils formeront une cité de futurs justes, des gens qui, parce qu'on saura comment les former, dans une période de crise à venir, un jour peut-être, sauront réagir. Non, c'est l'utopie pédagogique, essayant de former une cité de futurs justes. Et pour cela, mettons à jour le portrait idéal du juste. C'est très séduisant, mais pour un historien, pour un sociologue, ça, c'est pas convaincant. En particulier, je l'ai déjà dit dans une autre conférence, moi j'ai été fasciné, il y a un livre américain qui montre qu'il y a un certain nombre de justes qui ont eu une maladie grave dans leur enfance. Alors, vous dites, mais quel rapport? Mais c'est pas bête, hein? Alors, vous savez, c'est la statistique. Vous prenez des gens qui ont sauvé, vous regardez combien ont eu une maladie grave dans leur enfance, et s'il y a un pourcentage convaincant, il y a peut-être quelque chose. Ça veut dire que dans leur enfance, ces gens ont reçu une aide forte d'un médecin, d'une mère qui les a veillés, d'un père, d'un frère aîné, d'une infirmière, et que, en quelque sorte, sans eux n'en sont pas conscients, mais qu'ils auraient, 30 ans après, dans une période de crise, ils auraient voulu, en quelque sorte, rendre à l'humanité, mais eux ne se le disent pas eux-mêmes, hein, ça ne marche pas comme ça, c'est les psychologues qui ensuite reconstruisent, ils auraient voulu rendre à l'humanité, par un geste de don de leur part, ce qu'ils en auraient reçu de la part d'un maître, d'un instituteur, d'un médecin, d'une infirmière, d'un frère aîné. Bon. Moi, j'ai choisi une solution moyenne, ne pas me priver de raconter des histoires, mais essayer de repérer donc, s'il y a des lieux, des milieux professionnels, des milieux géographiques, des milieux sociologiques, des milieux confessionnels, politiques. La question du genre aussi. Est-ce que ce sont plutôt des femmes ou plutôt des hommes qui ont été justes en France dans les années 40? Alors, je vous propose de répondre à ces quelques questions. La première question, qui est une question piège, c'est est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Oui, il y a plus de femmes parmi les justes de France. Là, je parle des justes de France, hein, les justes français. Il y a 53%, c'est pas énorme, c'est pas 60-40, il y a 53% de justes français qui sont des Françaises. Voilà, alors là, tout de suite, on pourrait jouer, mais on n'a pas le temps. On pourrait se dire, c'est parce que... Alors, il y a deux choses. Hein. Soit vous êtes d'une civilisation un peu machiste, et vous considérez que la femme ayant dans ses neurones le gène de la maternité est plus accueillante que le mâle. Bon. Soit vous êtes féministe, et vous féministe où vous pensez, et on le sait d'ailleurs que souvent les femmes sont plus courageuses, plus résistantes à la souffrance, y compris physique, que les hommes. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. S'il y a plus de femmes justes, c'est parce que dans la France de 1942, il y a plus de femmes que d'hommes. D'abord parce que 1,5 million de jeunes hommes sont morts en 14-18 et n'ont pas été remplacés ou trop peu par l'immigration. Et que par ailleurs, de 40 à 44, entre 1 et 2 millions d'hommes jeunes sont prisonniers de guerre en Allemagne. Parmi eux d'ailleurs, vous le savez, moi quand j'ai découvert ça récemment, ça m'a fasciné, il y a plusieurs milliers de juifs qui sont prisonniers de guerre en Allemagne et qui ont d'ailleurs échappé grâce à ça, puisque protégés par les conventions internationales sur les prisonniers de guerre, ils ont échappé à la Shoah en étant en Allemagne. Mais donc, il y a à peu près, dans la France de 42, on est à peu près à 52 ou 53% de femmes dans l'ensemble de la population. Donc, il n'y a pas, je dirais, les Françaises n'ont pas été plus justes que les hommes. La seconde caractéristique que se pose un historien, c'est est-ce qu'il y a des milieux socioprofessionnels? Et le premier milieu qui donne des justes en France, c'est le milieu paysan. Il y a 28% de justes français qui appartiennent à l'ensemble du milieu paysan, depuis le propriétaire riche jusqu'à l'ouvrier agricole, en passant par le jardinier, le fermier, le métayer et tous les paysans propriétaires, comme on en trouve tant au Chambon-sur-Lignon, sur le plateau, qui est une démocratie de petits propriétaires, ou dans les Cévennes, ou dans le Poitou. Mais là aussi, dans la France des années 40, il y avait 33% de gens qui relevaient du secteur de l'agriculture. Et donc, les paysans n'ont pas donné, ils ne sont pas surreprésentés dans le monde des justes. Le second secteur le plus représenté, et là, il y a sans doute surreprésentation, c'est le secteur, alors j'ai englobé tout cela dans tout ce qui est hôtel, pension, commerce, artisanat. J'ai été frappé, y compris à Paris, du fait qu'il y a des dizaines de bouchers et des dizaines de boulangers qui sont justes. De même qu'il y a, ça paraît normal, des dizaines d'hôteliers, de propriétaires de restaurants, de pensions qui sont justes. Il est vrai aussi, ça a été dit tout à l'heure par M. Rich à propos de ces départements où, puisqu'il n'y avait quasiment pas de juifs, il n'y a pas de justes. Hein. Voilà pourquoi, sauf preuve du contraire, il n'y a toujours pas de justes en Corse. Je l'ai dit dans une conférence où deux Corses m'ont immédiatement agressé, pour prétendre d'ailleurs que les Corses étaient d'origine juive. Donc j'ai conclu qu'on était à un niveau de sérieux historique, il ne fallait pas insister. Il y a très peu de justes en Alsace-Lorraine. Moi, à l'époque où j'ai fait le livre, j'avais zéro dans mes statistiques. Or, vous m'avez appris qu'il y en a maintenant. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de justes alsaciens, mais qui étaient de cette émigration, soit des années après 1970, soit l'exode de 1939, notamment dans le Périgord. Hein. Il y a très peu de justes en Bretagne, parce qu'il n'y avait pas de juifs en Bretagne, quasiment. Donc, c'est vrai que les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les propriétaires de pensions ou d'hôtels étaient plus à même d'être sollicités par des juifs, de façon à donner la nourriture sans regarder les tickets d'alimentation. Et l'un des ouvrages américains qui m'a paru le plus fort montre que pour qu'il y ait des justes, souvent, on n'est pas juste spontanément, il y a toute une réflexion, souvent les gens ont été sollicités par un voisin disant « il y a une rafle, est-ce que vous pouvez me garder ?» Sollicité par un leader d'opinion, le curé qui dit à son paroissien « est-ce que tu peux me garder une famille ?» Le pasteur, l'instituteur, etc. Il faut être sollicité. Il a montré, cette étude a montré aussi que les juifs qui ont le mieux échappé à la Shoah, ce sont les juifs qui ont osé solliciter. Et par là même, ça explique en France, le taux de survie des juifs français, de vieille nationalité française, est beaucoup plus fort. Je ne vais pas me lancer dans les chiffres, c'est 88%. De juifs français qui ont échappé à la Shoah, mais c'est seulement 61% de juifs étrangers. Non pas parce que les Français, outre l'antisémitisme, auraient aussi la xénophobie, mais parce que quand vous êtes un juif intégré depuis longtemps dans des réseaux de travail, de voisinage, de souvenirs de services militaires, d'associations sportives, eh bien il est plus facile de solliciter votre voisin, votre collègue de bureau, que lorsque vous êtes un juif communiste arrivé clandestinement de Pologne, comme les grands-parents de mon ami Ivan Jablonka, qui a écrit un très beau livre, hein, à la quête de ses grands-parents disparus. Vous savez, des juifs polonais communistes qui ont émigré sans papier en France pour se faire arrêter en 1943 et qui sont retournés à Auschwitz mourir. Voilà. Donc, il y a des métiers, effectivement, qui se prêtent plus à donner des justes. Ensuite, troisième proportion, ce sont les... j'en suis un, donc ça me fait plaisir, ce sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Et au sein des fonctionnaires, les enseignants. Je vous fais grâce des chiffres, ils sont dans le livre, je crois que c'est 7% d'enseignants parmi les justes de France, c'est une forte proportion. Hein. Alors il faut être clair, tous les enseignants ne sont pas également représentés, il y a un grand néant des professeurs d'université. Alors il y en a deux ou trois, le plus célèbre c'est... Il a fini sa carrière à Grenoble et c'est quelqu'un qui est connu dans les sciences humaines et dont le nom évidemment m'échappe à l'instant, qui me pardonne, dont j'étais tout à fait surpris de savoir que cette grande figure était juste, mais il n'y en a quasiment pas à l'université, quasiment pas non plus dans les lycées. En fait, l'essentiel des justes enseignants, ce sont les instituteurs, les institutrices primaires, vous savez, les célèbres hussards noirs. Et lorsque tout à l'heure, si j'en ai le temps, je dirai un mot des valeurs des justes, eh bien, beaucoup de justes l'ont été pour des raisons d'engagement chrétien, mais beaucoup d'instituteurs l'ont été, je dirais, parce qu'ils... Alors là c'est pas un discours de rentrée de ministre de l'Éducation nationale, c'est une réalité. Les valeurs dont étaient pénétrés ces hussards noirs des années 40, formés par ce que ce que la République laïque a eu de meilleur, hein, la laïcité de l'époque, eh bien, ils ont sauvé des enfants au nom de cet humanisme totalement étranger à toute religion, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est l'une des belles familles de juste de France, la famille des hussards noirs de la République, hein. Donc, je trouve que la France ne parle pas suffisamment. Vous voyez, demain, on va célébrer, c'est normal, Mgr Saliège. Je vous reparlerai peut-être, on a parlé tout à l'heure du Chambon-sur-Lignon. Et là, il faut être clair, le Chambon-sur-Lignon, la seule chose qu'il explique, c'est le protestantisme. Mais à côté du poumon catholique, hein, qui est très présent, 5 évêques justes, des dizaines de religieuses, à côté du poumon protestant, 2% de protestants en France, entre 10 et 11% de justes. Et bien à côté de ça, il y a au minimum un troisième poumon, le poumon de la République laïque, des instituteurs. Et celui-ci, je trouve que notre propre République laïque n'en fait pas suffisamment mémoire. Donc pour le réseau, sachons saluer les instituteurs, les institutrices, et en particulier aussi, ça me permettra de citer Serge Gainsbourg, sachons saluer, j'en parlais tout à l'heure avec Alice Ferrière, l'enseignement primaire supérieur, parce que j'ai découvert, notamment dans le Limousin, dans l'Auvergne, que beaucoup de petites villes, de chefs-lieux d'arrondissement, s'étaient dotées sous la République de ce qu'on appelait des cours complémentaires. Seuls les très âgés parmi vous et les historiens savent ce que c'était, et les écoles primaires supérieures de jeunes filles ou de garçons. Et la caractéristique de ces établissements, c'est qu'il y avait le meilleur de l'esprit laïque, mais qu'il y avait aussi très physiquement des internats. Alors qu'il n'y a pas d'internat dans les écoles primaires de nos hameaux, de nos communes. Et donc, lorsque vous voulez sauver un juif, c'est très bien d'avoir des valeurs humanistes laïques qui vous poussent à le sauver, un enfant. Mais il faut aussi savoir où le loger. Et les logements de fonction des instituteurs, si vous avez votre porte famille, c'est très difficile. Ou alors, il faut le confier à notre famille, mais vous démultipliez les risques. Tandis que dans les écoles primaires supérieures qui avaient systématiquement des internats, comme dans les couvents catholiques qui étaient souvent leurs concurrents et leurs adversaires idéologiques, il y avait des internats et on pouvait donc très facilement cacher des enfants ou des adolescents. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Serge Gainsbourg a été sauvé. Je trouvais ça très joli parce qu'on a gardé ses lettres. Il écrivait des lettres à ses parents, eux-mêmes cachés dans un autre département. Je crois que Gainsbourg était à la Souterraine, qui est dans la Creuse, hein. Voilà. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, mais ça je l'ai trouvé dans beaucoup de correspondances, il écrivait à ses parents en disant « Je ne suis pas le seul juif, il y en a un autre ». Et puis le directeur, je ne sais plus s'il est juste ce monsieur, le directeur est passé dans toutes les classes en disant « Le premier qui s'en prend aux juifs qui sont là aura affaire à moi ». Et donc ça a été réglé, sauf que ni le directeur ni Serge dans ses lettres à ses parents ne disaient « juif ». Moi je trouve ça merveilleux le langage codé. Il disait « les faibles ». Pour que si, justement, le contrôle postal de Vichy ouvrait la lettre, voilà. Et donc, il disait, Gainsbourg écrit, je ne suis pas le seul faible. Il y a un autre faible, il y a même un faible parmi les surveillants. Et le directeur est passé en disant, si on s'en prend au faible, vous aurez affaire à moi. Donc, ils avaient intégré la famille Gainsbourg qu'il ne fallait pas, dans les lettres même privées, se désigner comme juif. Donc, j'ai parlé des instituteurs. Un chiffre aussi qui est tout à fait étonnant, on vient de parler des religions, 9% des justes français appartiennent à l'un ou l'autre des clergés chrétiens. Clergés catholiques, clergés protestants, mais aussi, je l'ai découvert en faisant ce livre, clergés orthodoxes. Il y a deux prêtres orthodoxes, tous deux d'origine russe, issus de l'immigration russe, de l'entre-deux-guerres. Et il y a à Paris, vous le savez, sans doute, j'ai découvert ça, il y a une religieuse. Voilà, une religieuse orthodoxe russe, mariée, je crois, deux fois, trois enfants, fuyant le bolchevisme, créant dans je ne sais plus quel quartier populaire de Paris l'équivalent pour l'immigration orthodoxe des foyers de l'armée du salut, c'est le même principe. C'est rue Lourmel, je crois. Alors, en français, je crois qu'on l'appelle Mère Marie de Paris, mais elle a un nom. Voilà. On a corrigé les erreurs sur son nom jusqu'au dernier moment. Sachez que l'Église orthodoxe l'a canonisée. L'Église orthodoxe a des saints, et c'est la première sainte de la diaspora. Elle est également juste, et elle fait partie, mais ça c'est une question qui est toujours, je le vois dans les conférences sensibles, elle fait partie des rares justes qui sont morts en camp d'extermination, elle a fini par être gazée, qui sont morts uniquement pour avoir sauvé des juifs. Alors que beaucoup de gens qui sont des martyrs, hein, parmi les justes, ont souvent été arrêtés par la Gestapo en France, non pas pour leurs activités de sauvetage des Juifs, mais pour leurs activités de résistance classique, les premières et deuxième armées, comme dirait Monsieur le maire, très souvent. Et il est très rare, et ça pour moi c'est une énigme, de trouver des gens que la Gestapo a ciblés, frappés, déportés et mis à mort, la Gestapo ou les forces d'occupation allemandes, uniquement pour leur activité de sauvetage des Juifs. Il y a cette religieuse orthodoxe russe, il y a au Chambon-sur-Lignon le neveu du passeur Trogmé, mais lui, il a été en quelque sorte volontaire, puisque lorsqu'on a raflé le... Il est juste, bien sûr, Daniel Trocmé. Lorsqu'on a raflé le foyer de jeunes gens juifs, la Gestapo lui a fait savoir que comme il n'était pas juif, elle ne l'intéressait pas. Et il a tenu à dire qu'il voulait accompagner jusqu'au bout de leur périple ici, ici-bas, les jeunes juifs. Et donc, il les a accompagnés jusqu'à Majdanek et jusqu'à la mort. On a comme ça un certain nombre, y compris, je crois, le propre frère de l'abbé Glasberg. Son propre frère qui dirigeait une maison aussi d'accueil de juifs dans le Gers et qui lui aussi, on lui a dit les Allemands arrivent, il a choisi non pas de s'enfuir pour sauver sa vie, il a choisi de rester pour faire gagner du temps à ceux qu'il sauvait dans le château et donc lorsque les Allemands sont arrivés, ils l'ont arrêté, il a été déporté. Hein. Villa Glasberg qui est Victor. Victor en français et Villa, son nom d'origine juive ukrainienne, hein, puisque au départ, c'est, vous le savez, ce sont deux juifs convertis, les frères Glasberg. Voilà, donc 9% de clergé, et dans ce clergé, il y a des prêtres, des religieuses, des frères, des évêques, des pasteurs. Il y a aussi, je voudrais le dire, hein, il y a aussi plusieurs membres de l'armée du salut, hein, qui sont juste au moins une demi-douzaine. Enfin, la dernière question à poser, c'est celle de la géographie. Il y a des cartes dans le livre. Hein. La géographie des justes en France, elle est extrêmement contrastée. Aussi, alors, j'ai fait deux cartes. Une carte du nombre, et le comité français voyage de Vachem, donc l'affiche maintenant, affiche des choses. C'est une carte que je n'ai pas faite moi-même. J'ai pris des chiffres dans la brochure publiée sur le mur des justes, parce qu'il est très difficile pour certains justes de les placer quelque part. Si vous prenez la fondatrice de la CIMAD, Madeleine Barrault, elle a sauvé des Juifs à Gurs, mais ensuite elle a installé ses bureaux à Nîmes, puis à Valence dans la Drôme, et elle a passé son temps, elle a été parmi cette dizaine ou cette quinzaine de militants juifs et non-juifs qui ont sauvé les 100 et quelques enfants de la nuit de Vénissieux à Lyon. Donc où mettre Madeleine Barrault, dans quel département la mettre, si on veut faire une géographie? La mettre à Gurs, à Nîmes? En Gironde, pour monsieur qui est de Gironde. Bon, mais moi, je suis ni moi. Donc, alors, c'est pas parfait, hein, mais on a quand même on a deux cartes. Une carte du nombre de justes, le nombre absolu, et puis une carte sur le nombre relatif, puisque vous comprenez bien que si c'est le nombre absolu, le département qui a le plus de justes et qui écrase tous les autres, je suis heureux de le dire devant l'adjointe au maire, c'est évidemment la Seine, et c'est Paris de l'époque, hein, la Seine, puisqu'il y a quelque chose comme 400 justes. Hein. Ensuite, c'est Lyon, Marseille, Nice, mais vous comprenez bien qu'il est plus facile de trouver 400 justes à Paris que de les trouver au fin fond des, si j'ose dire, des déserts de Haute-Loire, d'Ardèche, du Dauphiné, de la Lozère. J'ai quand même réussi à nommer la Lozère une première fois. En même temps, ce que un certain nombre de juifs ont découvert à l'époque, c'est que contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, il était peut-être plus facile d'échapper à la Shoah à Paris même que dans une petite ville de province ou dans un chef-lieu d'arrondissement avec sa brigade de gendarmerie où les gendarmes connaissent tout. Et si ce test, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Et on connaît même des histoires, vous en connaissez sans doute, de juifs qui ont fini par quitter la zone non occupée pour rentrer à Paris et qui ont échappé à la Shoah en restant cachés à Paris. On a publié il y a quelques années l'histoire de ce coiffeur juif parisien, qui s'est enfermé pendant toute la durée de la guerre dans un sixième, dans une chambre de bonne, et l'immeuble parisien le savait, personne l'a trahi, donc les risques sont quelquefois aussi graves et les chances de survie sont quelquefois aussi fortes au cœur d'une ville occupée comme Paris que d'un village de la zone non occupée. Mais voilà pourquoi j'ai fait ces deux cartes. Alors je vous donne les éléments de réponse. La géographie des justes en France, elle est extrêmement contrastée, et ce que j'ai dit tout à l'heure des Corses, des Bretons, et les Alsaciens, et pour rassurer les Corses, les Bretons et les Alsaciens, cette géographie-là, ce n'est pas une géographie, si vous voulez, du bien et du mal. Les départements qui ont beaucoup de justes ne sont pas des départements qui auraient été des départements majoritairement héroïques. Hein. Vous avez bien compris que les justes sont des poteaux indicateurs, ils indiquent des milieux, mais ça a été dit à tout à l'heure et à très juste titre, les 3500 justes français n'effaceront bien sûr jamais le choix politique majeur d'un pays, de ses élites, et puis le silence très long de l'opinion publique, au minimum jusqu'au RAF de l'été 42. Hein. Dans la géographie, elle ne distribue pas les bons, les mauvais départements et les départements tièdes. Nous sommes d'accord, y compris parce que dans le sud de la France, tout l'exode juif alsacien, luxembourgeois, belge, hollandais, parisien et du nord, tout cet exode s'est retrouvé quelque part entre Bordeaux et Nice. Et donc il y avait de telles concentrations de réfugiés, cela explique qu'il y ait eu des justes. Hein. Je ne sais pas si le maire de Lacône est toujours là, mais si, oui, il est toujours là. Si à Lacône, donc on a vérifié tout à l'heure, il y a 12 justes, c'est parce qu'au départ, Vichy a sélectionné Lacône, comme d'autres villages et villes thermales, comme zone d'assignation à résidence. Et qu'après le passage de la première rafle qui a emporté quelques 140, je crois, juifs, eh bien la population laconaise, elle a été prise, je dirais, elle a été prise dans l'urgence de l'histoire. Les Juifs, ils étaient là autour d'eux, il fallait maintenant les sauver. Et donc certains l'ont fait, d'autres ont fermé les yeux. Et dans cette géographie des justes, elle est, vous le voyez, elle est extrêmement délicate à expliciter. Il faut renoncer à tout jamais aux critères du bien et du mal, parce qu'il y a une série de structures et de conjonctures. Si il y a aujourd'hui tant de justes à Nice, hein, Nice, c'est l'un, enfin, Nice et les Alpes-Maritimes, c'est l'un des départements qui en a le plus en chiffre absolu, en chiffre relatif. C'est parce que Nice était d'abord une zone frontière et que donc les Juifs essayaient d'échapper à la France. Et surtout, vous le savez bien, parce que Nice a été zone d'occupation italienne jusqu'en septembre 1943 et que dans cette zone, l'antisémitisme était, je crois qu'on peut le dire, moins fort juridiquement et réellement que dans la zone non occupée de la France de Vichy. Hein. Et simplement, évidemment, en septembre 1943, c'est vrai de Grenoble, de la Savoie et de Nice, le piège se referme. Ce qui avait été refuge devient piège. Et là, comme à Lacône à partir de 1942, là, la population locale, elle est aussi prise dans l'urgence de l'histoire. Il y a ceux qui trahissent, il y a ceux qui se taisent, il y a ceux qui font les gestes de sauvetage et qui expliquent la présence des justes. Donc, ceci dit, je ne distribue pas de bons points au département, mais j'ai fait une liste de plusieurs types de départements. Les départements qui ont donné le plus de justes d'un point de vue proportionnel à leur population sont, il n'y a pas de surprise, les départements frontières. Donc la Haute-Savoie, hein, je crois que c'est la Haute-Savoie, et pas d'ailleurs la zone de montagne, ça a été dit tout à l'heure par le maire de Thonon-les-Bains, un peu le lac Léman, y compris des gens qui passaient en barque, mais essentiellement cette zone de plaine qui se trouve entre Genève, je connais mal la géographie, Genève-Annemasse, etc., où il était, vous le savez, je l'ai dit dans le livre, il y avait par exemple un terrain de foot, moi je trouve ça merveilleux comme histoire, un terrain de foot, d'un côté c'était la France, de l'autre c'était la Suisse. Alors il y avait des jeunes militants juifs, ils étaient là avec les adolescents, ils faisaient jouer les adolescents au foot, et puis ils dégageaient le ballon du côté suisse. Il disait aux jeunes juifs qui avaient été désignés, va chercher le ballon. Non, le gamin se précipitait chercher le ballon, mais il ne revenait pas. Et ça passait. Hein. Vous savez, il y a aussi un couvent célèbre. Hein. Il y a plusieurs justes. Un couvent, je ne sais plus quel est l'ordre religieux. Peut-être les maristes, j'en suis plus sûr. Ou non, les Oblats de Saint-François de Sales. Hein. C'est beau comme nom. Les Oblats de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, c'est quelqu'un qui avait voulu convertir les protestants du Chablais à l'époque. Ils avaient le jardin. Le jardin était mitoyen aussi. Et donc, lorsque la patrouille allemande était passée, des dizaines de Juifs sont passés, ont traversé le jardin. Et puis, il y a aussi cette histoire qui est vraie, l'histoire du cimetière, qui est également mitoyen, et dont de faux enterrements étaient organisés. Les gens passé en Suisse. Donc, les zones frontières, c'est vrai un peu du Pays basque, donc le département des Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, c'est vrai des Alpes-Maritimes et des Savoies, et c'est vrai aussi de la frontière intérieure qui longe la zone de démarcation, la ligne de démarcation, puisque là aussi, il y avait beaucoup de tentatives de passage, et là aussi, il y avait beaucoup de justes. Deuxième type de département, j'essaye d'aller vite, hein. Encore 3 minutes, 3 minutes, ça va ? Je regarde du côté des hauts dirigeants du comité François Yad Vashem. Vous m'autorisez, merci. Ça sera décompté du temps de parole. Hein. Troisième type de département, les zones de montagne. Parce que même si je l'ai dit, finalement, c'était aussi facile, en quelque sorte, d'échapper à la Shoah à Paris, à condition, évidemment, de refuser de porter l'étoile jaune. Il ne faut pas jouer le jeu de la législation antisémite. Hein. Voilà. L'un de mes profs de Nanterre, Jean-Jacques Becker, raconte que lui, il ne portait pas l'étoile jaune quand il allait suivre ses cours, mais pour être tranquille, il faisait semblant de la porter pour que ses voisins ne le dénonce pas. Et donc, les voisins voyaient sortir Jean-Jacques Becker, grand historien de 14-18, hein, qui a été mon prof et j'ai été son assistant. Ils le voyaient sortir, le jeune Jean-Jacques Becker, avec sa mallette contre la poitrine. Il se disait, le pauvre juif, il a honte de son étoile. Mais dès qu'il était dans la rue, il portait sa mallette, il n'avait pas l'étoile. Vous voyez l'habileté de cet homme, hein, faisant croire qu'il cachait l'étoile jaune, pour ne pas être dénoncé par ses voisins. Bon, donc les zones rurales ont été des zones de refuge majeures, c'est vrai des Alpes dans tout leur ensemble, toutes les Alpes, tout le Massif central, toutes les Pyrénées, sans doute aussi un peu le Jura et les Vosges, parce que je dirais que spontanément on pense toujours qu'il est plus facile de se cacher dans ces zones retirées, ce qui d'ailleurs était relativement vrai. Et puis aussi, il y a d'autres raisons, je passe vite, ces zones étaient des poumons agricoles de la France, hein. Il y avait une agriculture vivrière extrêmement efficace qui ne travaillait pas pour le marché, hein. Et donc dans toutes ces zones, encore aujourd'hui, quand vous pouvez nourrir 10 familles, vous pouvez en nourrir 15 parce que toutes les familles avaient, vous le savez, j'ose pas dire le cochon, mais c'était ça la France profonde du temps. Je sais qu'il ne faut pas dire le cochon ce soir ici. Il y avait le cochon, les lapins, la chèvre pour le lait. Très bien. Donc le cochon, j'y insiste, les poules pour les œufs, etc. Et puis les légumes. Et donc on a beaucoup sauvé comme ça. Parce que, je le rappelle, hein, les justes, on peut faire de grandes phrases pour dire les justes. Mais on peut dire aussi qu'être un juste, ça veut dire au quotidien, être plus à l'étroit chez soi. Je voudrais donner aussi l'exemple qu'on m'a cité. Dans mon premier livre, je n'avais pas osé le dire. Là, j'ai osé le dire. À Florac, en Lozère, on a sauvé pendant un an deux femmes qui, à la fin de la guerre, sont parties. Plus jamais personne n'a su qui elles étaient. Elles avaient tellement peur, c'était la mère et la fille, elles avaient tellement peur que pendant un an, elles ne sont jamais sorties physiquement de la grange avec un coin de cheminée qu'on leur avait prêté. Et chaque jour, la dame, elle est morte depuis longtemps maintenant, chaque jour, la dame qui les sauvait, elle venait les ravitailler. Et excusez-moi de le dire, c'est ça aussi sauver des gens. Elle venait chercher le pot de chambre pour le vider. Parce que ces femmes avaient trop peur pour sortir. Et donc, être juste, c'est quelquefois être un grand nom du courage, de l'héroïsme, mais c'est aussi... Alors, elle n'est pas juste d'ailleurs, cette dame, parce que j'ai le nom de la dame qui a fait ça, mais je n'ai pas le nom des juifs qu'elle a sauvés. C'est ça aussi, hein, le quotidien. Vous savez, quand on a des enfants chez soi, c'est les élever, les nourrir, les gronder. J'ai des témoignages, notamment dans toute la France de l'Ouest, la France catholique, hein, où on a sauvé la Sarthe, la Vendée, etc. Il y a des enfants qui disent « j'ai été grondé ». Quand je l'ai mérité, j'ai été grondé par ceux qui m'ont sauvé. Et c'était bien aussi. Ce n'est pas parce qu'on est un petit juif caché qu'il ne faut pas être grondé si on a fait une bêtise. Mais vous imaginez les trésors de psychologie. C'est un mot que la plupart des familles modestes ne connaissaient pas. Les trésors de psychologie, de sagesse pour savoir comment élever un enfant dont on sait qu'il est clandestin, dont on sait que les parents ont été arrêtés. Voilà, c'est ça l'éducation au quotidien. Enfin, parmi les départements... j'ai presque terminé. Hein, parmi les départements qui ont sauvé beaucoup proportionnellement à leur population de juifs, où il y a beaucoup de justes, j'ai été frappé par une sorte dorsale qui part de Toulouse, qui remonte jusqu'au nord de Limoges et qui passe par tous ces départements qu'aiment aujourd'hui nos amis anglais, vous savez, la Dordogne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Creuse, la Corrèze, et puis le troisième, la Haute-Vienne. Et là, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer. Il y a d'abord la ligne de chemin de fer, le Paris-Limoges-Brive-Toulouse. Il y a la ligne de démarcation. Et puis, je crois que là, je parlais tout à l'heure des instituteurs, là, on est dans le noyau dur d'une France, osons les mots, une France qui était en train à l'époque, c'est bien avancé, de sortir du catholicisme, la France déchristianisée, la France de gauche, la France laïque, avec donc précisément cette armature d'enseignement primaire supérieur dont je parlais tout à l'heure. Une précision, les écoles primaires, c'est obligatoire à l'époque, c'était obligatoire dans chaque commune, mais l'enseignement primaire supérieur n'était pas obligatoire, et il y avait un accord entre la municipalité et l'administration de l'éducation nationale. L'administration mettait à disposition les enseignants, mais il fallait que la municipalité mette à disposition les locaux. Et quand vous êtes une municipalité cléricale, de droite, catholique, vous ne faites pas venir l'école primaire supérieure de la République. Vous faites venir les frères des écoles chrétiennes qui font ça tout aussi bien que les hussards noirs et qui œuvrent, vous savez, qui ouvrent un collège lassalien. La France catholique, elle avait une armature de, j'ai fait ma thèse sur ça, de dizaines de collèges tenus par les maristes, des religieuses qui ont d'ailleurs sauvé aussi des enfants juifs. Et si vous voulez avoir des écoles primaires supérieures, il faut qu'il y ait un investissement local, politique, de la municipalité. Voilà pourquoi vous avez dans ces régions déchristianisées, très laïques, très humanistes, sans doute aussi, il faut le dire, avec chez les élus une armature franc-maçonne, je crois qu'on peut le dire aussi. C'est l'une des questions à laquelle je ne sais pas répondre. Hein. Est-ce que les francs-maçons ont sauvé des juifs? Je n'ai pas la réponse à cette question, parce que ça n'a pas été étudié, à commencer par moi-même. Mais il est clair qu'un certain nombre de cadres de la République laïque, des élus, des secrétaires de mairie, des instituteurs, des directeurs d'établissements scolaires, étaient aussi des francs-maçons. Et ils sont spécialement nombreux dans cette dorsale, je dirais Toulouse-Limoges, de la France déchristianisée et laïque. Enfin, je termine sur ça, deux départements où la seule explication, c'est effectivement le protestantisme. On a parlé déjà et beaucoup tout à l'heure, vous avez donné des présidences d'honneur à Mme Vauquier-Motte, hein. C'est évidemment le Chambon-sur-Lignon, mais vous le savez, le Chambon, c'est juste une icône. Tout autour du Chambon, vous avez une quinzaine de gros bourgs, comme Saint-Agrève en Ardèche. Saint-Agrève, c'est quand même là que s'est réfugié Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, il n'est jamais arrivé jusqu'au Chambon. Il a quitté Marseille pour Dieulfi. Hein. Dieulfi, c'est aussi très célèbre aujourd'hui. Et puis, il est monté à Saint-Agrève, hein, comme aussi, je crois, la famille de Jules Isaac, l'historien. Donc, le Mazet-Saint-Voix, toutes ces deux cantons protestants qui sont à cheval entre la Haute-Ardèche et puis la Haute-Loire. Hein. Et puis, vous avez les Cévennes, dont je trouve qu'on n'a pas encore parlé cet après-midi. Il n'y avait pas de maire des Cévennes. Les Cévennes, donc, Lozère-Gare, où il y a aujourd'hui quelque chose comme 40 justes. Hein, voilà. Là, c'est le protestantisme. Et le protestantisme, là aussi, on ne distribue pas de médailles, si j'ose dire, du bien et du mal. Les protestants français, sinon, je le dit tout à l'heure, 2% de la population a donné entre 10 et 11% des justes. Ce n'est pas parce que les protestants étaient plus lucides ou plus généreux, mais c'est parce qu'ils avaient une culture, une mémoire qui n'avait rien à voir avec celle des autres Français, ni les Français catholiques, ni les Français communistes, ni les Français laïcs. Ils avaient d'abord, ils avaient un rapport très fort à la Bible, et notamment à l'Ancien Testament, que les protestants lisent autant que les juifs, avec des prénoms juifs, etc. Et puis, ils avaient cette mémoire de minorité persécutée qui partage en Europe avec les Hussites de Bohême, avec les Vaudois italiens, avec un certain nombre de minorités protestantes que vous trouvez en Pologne, en Hollande, en Hongrie, en Tchécoslovaquie du temps, et en Italie et en France. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que on a parlé tout à l'heure d'hommes et de femmes ordinaires. On a parlé aussi de l'entrée des justes au Panthéon. Je rappelle, c'était une jolie idée qu'a eu Lucien Lazare il y a 20 ans de ça. Il avait proposé de faire entrer soit un seul juste au Panthéon, soit de trouver l'équivalent du soldat inconnu de 14-18. Et je trouve que la solution qui a été choisie, l'entrée de la totalité des justes au Panthéon, elle est très belle parce que, comme le soldat inconnu, elle dit précisément l'anonymat, l'ordinarité, la multiplicité de ce sauvetage au quotidien qui n'est pas toute la France, on le sait bien, il y avait l'autre France, mais qui est aussi toute une France. Et donc, toute une France, pour bien l'incarner, soit on choisit un soldat inconnu en 14-18, soit on choisit de faire entrer la masse presque anonyme des justes. Et je trouve que ce choix a été très bien fait. Voilà, je vous remercie. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long.
Bien. Alors, est-ce que parmi vous, il y a certaines questions que vous souhaiteriez poser ?
Merci. Je voudrais juste rectifier deux petites erreurs. La première, c'est que le Gard était représenté ce soir en la personne de votre serviteur. C'était juste pour l'anecdote.
Ah, très bien.
Et que, précisément, ça me permet de rebondir sur l'intervenant précédent. Il se trouve que dans mon village, le pasteur a hébergé une juive dans le presbytère, dans la salle paroissiale duquel, dans la cour, était hébergé l'Africa Corps, qui était en repos. Alors, dire qu'il n'y avait aucun risque de prix, c'est un petit peu léger. Je veux simplement dire que les personnes qui ont fait ça, le pasteur et son épouse, étaient complètement inconscients, c'est clair. Et que nous ne l'avons jamais su dans le village, nous l'avons su 40 ans plus tard, quand les enfants de la femme qui a été sauvée ont fait les recherches. Et c'est Yad Vashem qui est venu à eux. Et ils ont dit, mais nous, on n'a rien fait spécial. Voilà. Voilà pourquoi les choses ne se savent pas. Merci.
Merci. Merci, monsieur.
Oui. Le micro arrive.
Merci. Juste un petit mot. C'est d'abord pour remercier le conférencier. J'ai passé un moment délicieux. Et je voudrais rectifier quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en disant que la Creuse avait été exemplaire. Mais il faut quand même savoir qu'elle a eu aussi son mouton noir en la personne de M. Fernand de Brinon. Et là, je pense que le conférencier connaît l'histoire et je tenais à le signaler. Merci.
Monsieur Lévy.
Mes compliments. Vous êtes exceptionnel et ça fait plaisir de vous avoir eu ce soir. Je voudrais vous dire une première chose. Il existe des Juifs Corse. Le professeur de cardiologie qui est un grand ami à moi s'appelle monsieur Yves Nadjari. Il va à la synagogue très souvent et il a un nom corse. C'est une petite anecdote. J'ai également entendu dire qu'il y avait des musulmans pendant la guerre et notamment dans les mosquées à Paris qui ont sauvé des juifs. Est-ce vrai?
Oui. Je dis un élément de réponse. Oui, et puis madame répondra après. Il vient d'être publié aux États-Unis un ouvrage, mais qui n'a pas été traduit encore, d'un jeune historien américain, Ethan Katz, sur les relations entre juifs et musulmans en France au XXe siècle. Et il a publié dans une revue juive américaine un article tout à fait remarquable sur ce qu'a fait et sur ce qu'on a dit après qu'elle avait fait ou pas, parce qu'il y a toute une mythologie, la mosquée de Paris, à l'égard du sautage des juifs. Cet article est en train d'être traduit en français et va paraître en français dans la revue que je dirige. Alors ça s'appelle la publicité. C'est pas commercial, c'est une revue scientifique qui se vend pas, hein, qui s'appelle Diaspora, Histoire et Société. Et dans le numéro de cet automne, on va faire paraître en français la traduction de ce gros article sur la réalité qui est modeste, et puis sur le mythe bienveillant qui s'est construit, parce que je crois que tout le monde à certains moments souhaitait que la mosquée de Paris ait été un lieu de sauvetage beaucoup plus important que ce qu'il a été en réalité. Voilà. Et peut-être que
le projet Aladdin.
Oui, enfin, moi, je peux dire, puisque nous avons organisé l'avant-première d'un film qui portait sur notamment ce qui s'était passé à la mosquée de Paris, qui s'appelait Les Hommes Libres. En réalité, on sait qu'il y a des Juifs qui sont passés par la mosquée de Paris et il y a des Juifs qui ont été sauvés. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les chiffres ont été extrêmement exagérés, qu'il n'y avait pas une organisation qui sauvait les Juifs, mais que le recteur Ben Gabrit à l'époque ait permis le sauvetage des Juifs, c'est attesté par des gens qui ont été sauvés par lui. Donc il y a eu quelques-uns, on ne sait pas combien. Les archives n'ont pas été ouvertes, et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les archives n'ont pas été ouvertes, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de musulmans dans la milice. Donc je crois que cette question, elle n'est pas encore éclaircie, de même d'ailleurs qu'elle n'est pas éclaircie, et je feuilletais votre livre en regardant si vous aviez parlé, bien que c'était sur des statuts différents, de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, mais il n'y a pas eu de Shoah puisque les Américains sont arrivés très vite. Donc c'est une question sur laquelle il faudra vraiment encore écrire. Mais je voulais vous poser moi une question, parce que je me souviens d'une histoire formidable. C'est quand le ministre de l'Éducation, dont j'ai oublié le nom, à l'époque de Vichy, a réuni tous les inspecteurs généraux et tous les proviseurs, je crois que c'était au lycée Henri IV, et il leur a dit qu'il fallait exclure les Juifs des écoles. Et à ce moment-là, je pense que le directeur du département des affaires scolaires est intervenu et a dit que les fonctionnaires de la République étaient des hommes libres et que personne n'était obligé d'appliquer ce genre de circulaire. Et je pense qu'ensuite, il a été déchu de ses responsabilités. Et je pense que ça, c'est une histoire qui est un petit peu, qui reprend les hussards de la République avec quelqu'un qui a eu beaucoup de courage.
Je peux dire son nom. Il s'appelait Gustave Monod. Il appartenait à cette grande famille protestante des Monod. Et il était directeur, il était l'équivalent du recteur pour l'Académie de Paris. Et il a fait savoir au ministre, je ne sais plus si c'était Carcopino ou Chevalier. Carcopino encore, Jérôme Carcopino. Il a fait savoir au ministre qu'il avait bien sûr transmis les directives, mais qu'à titre personnel, il n'adhérait pas. Donc on lui a posé la question, êtes-vous juif, monsieur? Parce qu'on était étonné qu'un grand serviteur de l'État prenne fait et cause pour une poignée de professeurs juifs. Il a dit qu'il n'était pas juif, il a été cassé, effectivement, il est entré en résistance. Et juste après 1945, il est devenu directeur d'enseignement secondaire et il a appliqué, dit-on, une réforme très importante des lycées à laquelle il a attaché son nom. Voilà.
Écoutez, monsieur Cabanel, je voudrais vraiment vous remercier au nom de tous les présents avant de passer la parole au président du comité français pour Yad Vashem. Je crois que cette tentation, vous y avez résisté, à savoir comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un devient juste ou ne devient pas juste, mais vous êtes un historien. Vous n'êtes pas un moraliste. Et pourtant, c'est quand même la question que chacun d'entre nous, quand nous avons organisé des cérémonies de remise de médailles et que nous parlons des justes, au fond, c'est toujours la question que nous nous posons. Pourquoi celui-là, que c'était au péril de sa vie, au pape, au péril de sa vie, pourquoi est-ce que lui a ouvert sa porte? Pourquoi est-ce que lui a protégé? Pourquoi est-ce que lui a hébergé? Parce que... on s'est toujours dit, nous qui avons des enfants, qui enseignons, comment fait-on pour que son propre enfant, un jour, dans une situation comme ça, soit celui qui va ouvrir la porte. Voilà, je voudrais terminer en ce qui me concerne sur ces paroles. Je vous engage tous, bien sûr, à lire le livre, à acheter le livre de M. Cabanel et à le lire. Et je voudrais, pour terminer, céder la parole à mon président, le docteur Raphaël Hirsch, président du comité français pour Yad Vashem.
Oui, non, étant donné que tu as clôturé si bien, je ne vais pas rajouter sur ce qui nous a été dit et qui m'a passionné. Je vais lire le livre d'urgence et le talent vraiment, et là, nous a été exposé très bien. Et très humblement, on arrive à une époque de notre vie, nous, les anciens, où... des jeunes nous apprennent comment nous avons vécu. Ils ont raison d'en parler, ça nous fait plaisir. Quelquefois, vous nous pardonnez de tressaillir, parce que ce n'est pas tout à fait l'impression qu'on a eue. Alors nous affirmons, nous aussi, parce que nous ne sommes pas des témoins valables, au fond, on ne se rend pas compte de la réalité des choses dans leur ensemble. Tout de même, quelquefois, ça nous fait bondir. Quand cet Auguste Lucien Lazare veut m'écrire ou mes parents déportés résistants, tous deux croix de guerre, ayant caché 400 jeunes, ont été arrêtés dans tel village, alors que je me suis échappé de justesse. Je sais bien le nom du village, mais lui le sait mieux que moi. J'y consens. Mais enfin, quelquefois, ça nous fait un tout petit peu bondir aussi, on le comprendra. Ça n'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est tous ces historiens qui cherchent à cerner une époque extraordinairement difficile, extraordinairement complexe, où tous les éléments interfèrent, et décrire la France de 1942, fin 42, c'est une épreuve extrêmement difficile parce que les choses sont en train de virer. En 1940, la France est massivement pour Pétain, parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Et puis peu à peu, il y a quand même des choses qui se dessinent. Deuxièmement, il n'a pas été dit ce soir tout à fait assez fortement que la France est rurale, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Elle est essentiellement rurale et il n'y a plus d'hommes. Ça a été dit. Et par conséquent, on va bien comprendre que quand il s'agit de cacher nos jeunes qui parlent pas le français, ce sont des jeunes juifs allemands, puis bientôt ça va devenir des résistants, des gens qui sont réfractaires au service du travail obligatoire, qui gagnent les maquis parce que leur mère, qui a déjà le mari qui est prisonnier en Allemagne, et ne veut pas que son fils aille subir des bombardements gratuitement dans les usines Siemens. Et par conséquent, là, en 1942, véritablement naît une espèce de résistance. Ça se durcit. D'abord, les Allemands commencent à avoir des revers graves et les gens se demandent est-ce qu'ils ne vont pas par hasard perdre la guerre. Et deuxièmement, ces gens-là, ces fermières
qui ont la ferme en charge, qui n'ont plus d'hommes. Et vous savez, à l'époque, on n'a pas de tracteur ou d'engin agricole. Donc, on a un cheval qui tire la charrue. Eh bien, quand on leur donne un jeune homme pas trop sot, qui a des muscles et qui veut travailler gratuitement, eh bien, elles les prennent. Voilà, madame, un des facteurs qui fait que la France, largement agricole et démunie d'hommes, beaucoup, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y a entre 1 600 000 environ prisonniers, plus ceux qui partent au STO, il faut bien faire marcher la ferme, et donc elles nous prennent des jeunes, et ça les sauve. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, comme enfant caché, et qui a été dans la résistance, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce sont des pauvres qui m'ont sauvé, monsieur. Sans toute politique bue, hein, je ne veux pas dire, ce sont des pauvres. Le Conseil de l'Ordre des médecins, je suis chirurgien, eh bien, il a écrit à mon père, « Monsieur, vous êtes juif, vous allez être radié du Conseil de l'Ordre. » Et pareil pour les avocats, pareil pour les architectes. Il y a eu très peu, ou qu'on me le dise, des notabilités qui ont dit « Ça ne se passera pas comme ça, ça n'est pas conforme à notre éthique. » Bon, donc ce sont des pauvres. Allez savoir d'où ça leur est venu, je n'en sais rien. Et puis, il faut encore écrire beaucoup, mais merci d'avoir fait ceci. Je vais le lire, comme je vous l'ai dit, avec passion. Merci, monsieur.